Nathalie Arthaud, lundi 9 juin, notre classe, le prolétariat international. Notre fête n'est pas seulement celle de lutte ouvrière, mais aussi celle de l'Union communiste internationaliste, notre tendance politique internationale, dont font partie des camarades qui militent dans des lieux aussi divers que les Antilles dites françaises, la Réunion, les États-Unis, Haïti, la Côte d'Ivoire, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie ou la Turquie. Pour les trouver dans les allées de la fête, ne cherchez pas leur drapeau national. Ils lèvent tous le même drapeau que nous, le drapeau rouge, le drapeau des travailleurs, le drapeau des communistes révolutionnaires. Car notre classe n'est pas seulement le prolétariat de France, mais le prolétariat international. Les travailleurs ne pourront pas s'émanciper dans un seul pays. L'internationalisme n'est pas qu'une question de solidarité entre exploités et d'efficacité dans le combat. C'est la conviction que les travailleurs ne pourront pas s'émanciper dans un seul pays. C'est la conviction que le combat des travailleurs, qu'ils soient en Turquie, en Côte d'Ivoire, au Brésil ou en Afrique du Sud, est le combat de tous. C'est ainsi que le mouvement ouvrier s'est construit. Dans le passé, les travailleurs se sont nourris des combats, des partis, des idées qui circulaient parmi les travailleurs des autres pays. Sans le Parti social-démocrate allemand des années 1890, le Parti bolchévique russe, le seul à avoir mené une révolution ouvrière jusqu'à la victoire, aurait eu du mal à exister. Lénine, Trotsky, Rosa Luxembourg furent les grands dirigeants que l'on sait parce qu'ils se sont formés aux luttes des travailleurs d'Europe et du monde et aux débats politiques qui ont traversé les différents partis. Le mouvement ouvrier n'est ni français, ni allemand, ni russe. Il est par nature international. Un internationalisme qui s'est incarné dans des partis ouvriers ouverts aux travailleurs de toutes les nationalités. D'abord parce que la classe ouvrière de chaque pays était composée de travailleurs immigrés. En France, la classe ouvrière du XIXe siècle mêlait déjà des ouvriers belges, polonais, italiens. Sans parler de la classe ouvrière américaine qui s'est construite sur l'immigration. Ensuite, parce que chaque parti ouvrier répondait au célèbre mot d'ordre lancé par Marx et Engels, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Paul Lafargue, un des dirigeants du Parti ouvrier en France, a décrit dans les années 1890 l'état d'esprit des travailleurs qui participaient à la manifestation internationale du 1er mai. Il explique que des ouvriers qui n'étaient jamais sortis de leur petite localité et vivaient en dehors de toute agitation s'informaient sur les manifestations dans les autres pays, pays dont ils connaissaient à peine le nom et dont la situation géographique leur était inconnue. Ils avaient, explique-t-il, la conviction que les ouvriers du monde entier agissaient et sentaient comme eux. Ils attendaient le 1er mai comme un jour de libération, car ils se disaient que la lutte des camarades au dehors, ils ne savaient pas où, contribuait à l'amélioration de leur vie. Leur internationalisme allait de pair avec la lutte des classes. Il en va de même aujourd'hui. La société recule. En l'absence d'intervention massive et consciente de la classe ouvrière qui remet en cause le capitalisme, la société recule, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan moral et idéologique. La crise dans laquelle le capitalisme est plongé depuis plus de 40 ans et dont le dernier pic constitué par la crise financière de 2008 a laissé place au marasme économique, accule l'économie et la société dans une impasse. L'économie, travaillée par une série de contradictions, est mûre depuis longtemps pour une transformation sociale. Les techniques, le niveau de développement, l'échelle à laquelle nous sommes capables de produire poussent à une collectivisation de la production et à une mise en commun. Mais, en vertu du fait que la bourgeoisie possède les capitaux, elle domine toute la vie économique en fonction de ses intérêts individuels et égoïstes. Faute de se transformer, l'économie est ainsi condamnée aux crises, au gaspillage des moyens de production, à l'exploitation éhontée des travailleurs. Et faute de perspectives offertes aux populations, la société produit des reculs et des monstruosités inouïes. En Europe, dans les années 1930, la crise du capitalisme avait engendré le fascisme et le nazisme, avant d'entraîner le monde entier dans la guerre. Les mêmes causes engendrant les mêmes effets, 70 ans après, des forces du même ordre sont à l'œuvre. Partout où l'on porte son regard, on voit des forces qui militent pour le retour en arrière. Et la xénophobie, l'intolérance, la misogynie, le communautarisme, l'emprise des idées religieuses ne sont pas des privilèges réservés aux pays pauvres. Aucun continent, aucun pays n'y échappe, pas même les pays les plus riches et les plus éduqués de la planète. Le nationalisme, un piège mortel. Mais on peut voir en Ukraine où mène ce genre de logique nationaliste. Rien ne prédisposait pourtant à creuser un fossé d'incompréhension et de haine entre ceux qui se sentent ukrainiens et ceux qui se sentent russes. Pendant des décennies, ils ont été les deux à la fois, sans que cela pose de problème d'identité, ils ont parlé le russe ou l'ukrainien, passant sans problème d'une langue à l'autre. Pour que chacun se sente forcé de choisir un camp, entre pro-russe et pro-ukrainien, il a fallu des forces politiques, des militants, pour faire croire qu'il y avait incompatibilité, pour désigner l'autre camp comme l'adversaire, le responsable de tous les maux, alors que la réalité des pensions de misère, des fermetures de mines, du chômage de masse, est autant partagée d'un côté que de l'autre. L'internationalisme n'est peut-être pas spontané, mais le nationalisme pas plus. Le nationalisme, on nous l'inculque dès notre plus jeune âge. Eh bien, le mouvement ouvrier se doit de représenter l'inverse, la fraternité entre les exploités des différents pays, l'internationalisme. Les mêmes qui veulent ériger plus de frontières pour y enfermer les peuples ne voient pas de problème à ce que les capitaux de leur propre bourgeoisie colonisent le monde. Le colonialisme est fini, mais l'Afrique continue d'être vidée de son sang et de ses richesses comme au temps des colonies. Pour prélever tout ce qu'ils peuvent prélever, sans avoir à délier les cordons de la bourse, les groupes capitalistes surexploitent les travailleurs, polluent des régions entières et s'appuient sur les pires dictateurs qui soient. Ils condamnent l'Afrique au sous-développement. Et après avoir pillé, affamé et divisé des peuples entiers, les dirigeants des pays riches s'inquiètent de ce que le continent est de plus en plus déstabilisé. Après l'horreur du génocide rwandais, la guerre au Congo, les agissements monstrueux des bandes fanatisées se multiplient. Une barbarie qui répond à la barbarie. Après Al-Qaïda, c'est la secte Boko Haram qui sème la terreur. Hollande, comme toujours, s'est précipité sur la chose pour essayer de redorer son blason, dénonçant une « stratégie contraire à la civilisation », une stratégie de destruction des principes fondamentaux de la dignité humaine. Eh bien, ces mots décrivent parfaitement les agissements des colons qui ont découvert l'Amérique et ont pratiquement exterminé sa population indienne. Les agissements des troupes coloniales françaises lors de la conquête de l'Algérie et lors de sa guerre d'indépendance. Le génocide perpétré au Rwanda il y a tout juste 20 ans, avec la complicité du pouvoir français. Oui, l'enlèvement de dizaines de filles